n'était pas tout à fait prêt, vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne, ça tourne.
Déjà ?
Quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac.
Alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite?
Bah là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage?
So may we start. So may we start. It's time to start. High time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à l'écoute de Caméra Subjective, le magazine du cinéma sous toutes ses formes, surtout ce soir. C'est aujourd'hui notre cinquième émission et vous commencez à savoir que c'est toujours avec passion que nous vous parlons du 7e art. Une bonne rasade d'enthousiasme, beaucoup de curiosité, un zeste d'éclectisme, une grande envie de partager avec vous nos coups de cœur, le tout agrémenté d'un soupçon de mauvaise foi. Voilà les ingrédients avec lesquels nous mitonnons cette émission tous les 15 jours. Car oui, vous pouvez nous retrouver en direct un mercredi sur deux à 19h ou en réécoute sur le site de Radio G à la page de l'émission. Et ce soir, comme d'habitude, nous sommes trois chefs au fourneau dans le studio survolté de Radio G. Bonjour Anne-Lie.
Bonjour Margot.
Et bonjour Véronique.
Bonjour Margot, bonjour Anne-Lie.
Et au programme aujourd'hui, on parle d'un film qui va bientôt sortir en vidéo, édité par Diafana. Quelques indices, Margot ?
Voiture chromée, corps bodybuildé, étrange cicatrice au-dessus de l'oreille. Je vous propose d'assister ce soir à un combat de titans fort en émotion.
Indice, vous avez trouvé ou non, rendez-vous en fin d'émission.
Comme chaque fois, nous vous proposerons l'agenda culturel des événements ciné dans la région.
Et dans quelques minutes, nous avons rendez-vous avec Morgane Renaud, audiodescripteur pour le cinéma. C'est à lui notamment que l'on doit l'audiodescription du film « Petit paysan » de Hubert Charuel.
Mais pour commencer, voici la séquence sonore concoctée par Anne-Lie. Tendez l'oreille et connectez les neurones de votre mémoire pour tenter d'identifier le film dont voici quelques sons.
Oui, on écoute quelques extraits et vous saurez en fin d'émission pourquoi je vous recommande ce film.
Bonjour madame, monsieur, je m'appelle Russell et je suis un explorateur de la tribu des Wapiti, section 54, 12e campement. Avez-vous besoin que je vous rende un service aujourd'hui, monsieur ?
Non, je n'ai besoin de rien.
Quand je serai plus grande, je vais aller là où il est allé. L'Amérique du Sud. C'est comme l'Amérique, mais c'est le Sud. Tu veux savoir où sera ma maison ? Les chutes du paradis. Une terre où le temps s'est arrêté.
Bonjour, monsieur Fredriksen. C'est moi, Russell.
Je peux savoir ce que tu fais là, petit ?
J'ai trouvé le Dabou. Je l'ai suivi jusque sur votre porche. Pitié, laissez-moi entrer.
Non. Bon, d'accord, allez, tu peux.
C'est la première fois que je me retrouve dans une maison volante. Qu'est-ce que c'est tout ça? Vous partez en voyage?
Les chutes du paradis, la terre où le temps s'est arrêté.
Vous allez en Amérique du Sud, monsieur Fredriksen?
Ne touche pas, tu vas le salir.
En général, les gens prennent l'avion. Mais vous, c'est encore mieux, parce que vous avez votre télé, votre pendule et tout ce qu'il faut.
C'est un chien.
Un chien ?
Chez nous, on n'a pas le droit d'en avoir, on habite en appartement. Salut. C'est sympa, les chiens.
Votre chien est avec nous. Je me demande à qui il appartient.
Ah si. Regardez, il est dressé. Donne la patte, c'est bien. Dis bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est sympa, les chiens. Je pense que c'est une spéciale dédicace pour moi. En tout cas, on se regarde dans ce studio. On n'est pas sûr d'avoir trouvé. Et vous, est-ce que vous avez reconnu le film ? En tout cas, rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour avoir la réponse à ce petit jeu gratuit sans obligation d'achat ni promesse de gain. Et maintenant, nous recevons Morgane Renaud pour parler d'audiodescription de cinéma. À toi Véronique.
Bonjour Morgane Renaud.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Eh bien, et merci d'avoir accepté de venir dans notre émission. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons. Vous êtes auteur et narrateur d'audiodescription de films. Mais qu'est-ce que l'audiodescription au juste ? Rassurez-vous Morgane, nous n'allons pas vous donner la parole tout de suite, car c'est un enfant de 9 ans qui va nous expliquer cela.
L'audiodescription est un système qui permet de décrire pendant les films aux malvoyants ou aux aveugles ce que nous on voit à l'image pour qu'en fait eux ils puissent comprendre le film et du coup mieux comprendre et s'imaginer les images dans leur tête.
Titouan, vous le connaissez je crois. Comment trouvez-vous sa définition ? Est-elle complète ?
Sa définition est parfaite, car si je devais donner la mienne, ce serait à peu près une paraphrase de ce qu'il a dit. Peut-être avec des mots plus complexes, mais est-ce que ça serait plus clair ? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est complète ? On pourrait ajouter que oui, cette voix off est descriptive, qu'elle s'ajoute à la bande-son du film, ça c'est important à faire comprendre. Et comme il a dit tout ça, pour mieux faire comprendre le film aux spectateurs, auditeurs, malvoyants et non-voyants.
Ce qui nous intrigue beaucoup, c'est vous êtes auteur au service d'un film. Et quelles sont toutes les contraintes ? Comment vous faites en fait concrètement pour entrer dans une audiodescription et la proposer ?
Et ben, la première exploration, c'est celle, comme j'ai dit, de la bande-son. Un film, c'est quoi ? Quand on est aveugle, malvoyant, quand on s'assoit dans son canapé, dans une salle de cinéma, à quoi on a accès ? Ben, on va avoir accès à des dialogues, à des bruits, comme ça, et puis à de la musique. Moi, je vais me concentrer sur cette bande-son. Je vais essayer de trouver ces moments d'espace, on appelle ça des moments de silence, mais qui ne sont jamais des moments de silence dans un film, ces espaces de vide pour en profiter et ajouter cette voix off narrative qui va soit décrire des actions, des personnages, un bâtiment, et essayer de permettre une immersion dans le film.
Quels sont les écueils, quelles sont les choses à éviter quand on décrit une image ?
Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup même.
Ouais.
Un écueil auquel je pense tout le temps, c'est, j'appelle ça l'indigestion. Parce qu'il faut savoir qu'une bande-son, c'est déjà très très complet, c'est très chargé. Et donc ça fait beaucoup d'informations à digérer sur le moment, elle vous arrive à l'instant. Donc déjà pour quelqu'un qui voit, c'est énorme en fait. Rien que nous, quand on regarde un film, on rate des choses tout le temps. Et là, imaginez-vous que cette personne va avoir en plus une voix qui va s'additionner et qui va lui narrer des phrases qu'elle va devoir s'imaginer en petites vignettes, en plus de suivre le film. Donc ça, l'indigestion, c'est un vrai écueil. En général, dans les premières audiodescriptions, l'erreur qu'on fait, c'est d'en faire trop.
Et alors justement, parce qu'on entend dans ce que vous dites, c'est que finalement, votre rôle, c'est un petit peu de créer des images visuelles, en fait, à des gens qui n'ont pas accès à celles du film. Alors, par quoi ça passe, ça, du coup ?
C'est exactement ça. D'ailleurs, il y a une expression qui parle bien d'elle-même, que certains non-voyants utilisent. Ils disent, il faut que ta phrase, elle fasse image. L'expression « faire image », j'aime bien. Et ça décrit bien le procédé. Donc, l'idée, c'est grâce à la syntaxe et au choix des mots. En fait, on va se pencher sur un vocabulaire de notre langue et essayer de trouver les mots, pas forcément les plus beaux, mais ceux que, quand on les prononce, il se passe quelque chose. Si je vous dis papillon, si je vous dis morose, ces mots-là, tout de suite, on a des choses qui apparaissent. Et c'est sur ces mots-là qu'on va se baser. Et afin que la vignette se crée, l'important, c'est aussi la syntaxe. Il y a un ordre dans lequel on va placer les mots. Et ça va permettre aux personnes aveugles de plus ou moins réussir à se former cette vignette.
Alors, qu'est-ce que c'est cet ordre ?
L'ordre, c'est très simple. En fait, on fait de la peinture quand on fait l'audiodescription. C'est-à-dire qu'on va commencer par le décor. On va vous dire si c'est le jour ou si c'est la nuit. C'est comme si voilà, on peignait et qu'on commençait par le contour. Donc le jour, la nuit. Ensuite, on va vous dire si on est en extérieur ou en intérieur. Alors, pas sous ces mots-là. Mais on va vous dire si on est en montagne, sur une plaine. Ou si on est intérieur, on va vous dire si on est dans un entrepôt ou dans une salle à manger. Après, on va évoquer le personnage qui est sur l'image. Puis essayer d'ajouter des qualificatifs. Un vieil homme, il peut avoir une moustache grise, coiffé d'une casquette, il avance d'un pas chancelant. Et on va finir par l'action, le verbe. Voilà, et ça c'est une méthode qu'on peut appliquer. Et c'est vrai que ça, c'est toujours plus facile pour les personnes, les auditeurs, de se former la vignette.
Mais pour ça, il faut qu'il n'y ait pas trop de dialogue, j'imagine, parce que vous ne devez pas parler en même temps que les personnages.
Bien sûr, ça c'est une on peut dire, on n'a pas vraiment des règles, mais c'est une règle. L'idée c'est de jamais parler, bien sûr, sur les dialogues, car nous on arrive, on s'ajoute. On ne veut pas être un corps étranger. On doit se fondre, on doit être cette petite voix qui chuchote, qui s'ajoute, sans perturber l'écoute du film.
Est-ce que... parce qu'en fait, nous, quand on est voyant, quand on décrit une image, souvent, on va emprunter du vocabulaire cinématographique, comme des notions de cadrage, etc. Et est-ce que c'est possible de faire ça aussi pour décrire une image à des personnes aveugles ?
Eh bien non, c'est pas possible. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que nous, notre objectif, c'est de décrire ce qu'on voit à l'image. Donc si je vous dis « la caméra s'avance », à l'image, c'est pas ça. À l'image, il n'y a pas une caméra qui s'avance. Si je dis « la caméra s'avance », la personne aveugle va s'imaginer que sur l'image, on voit une caméra qui se déplace. Donc c'est pour ça, en fait. Là, y a un jeu là-dessus. Et donc, comment suggérer les effets techniques, les effets de mise en scène ? Par exemple, si je vous dis que je suis depuis l'habitacle d'une voiture, des champs cultivés défilent. Voilà.
Là, on a l'idée. On est passé de l'intérieur au mouvement.
D'accord. Exactement. On sait d'où on est, d'où est notre point de vue, et le mouvement avec le verbe défiler, on va comprendre. On ne va pas dire la caméra, on ne va pas parler de panoramique ou de travelling. On va dire que ça défile. Ou si je vous dis que des mains, elles sont ridées et qu'elles sont rugueuses, bah, c'est certainement qu'elles sont un peu en gros plan. On ne va jamais dire gros plan, mais si je vous donne des détails sur ces mains-là, ça va suggérer qu'on est certainement sur un gros plan.
Et est-ce qu'il y a des films qui sont impossibles à audio-décrire ?
J'en parlais hier, alors on parlait de théâtre, mais quelqu'un me demandait si sa pièce de théâtre c'était possible de l'audio-décrire, et j'ai dit bah, tout est possible, c'est juste c'est plus ou moins un casse-tête. Mais il y a à peu près tout qui est possible, parce que moi j'ai audio-décrit des films de Jacques Tati, par exemple, donc des films muets.
Est-ce que vous avez audio-décrit des dessins, enfin des courts-métrages d'animation de Norma McLaren où ça bouge, où il n'y a pas de narration ?
Non, alors lui, je ne connais pas. Par contre, j'ai fait beaucoup de dessins animés et qui sont des vrais casse-têtes, les dessins animés. Imaginez les Mois moches et méchants ou les Mignons, d'écrire ça, où vous avez 10 scènes à l'image en même temps et qui s'enchaînent. Et là, ça devient... Là, pour le coup, l'indigestion, on est toujours proche de l'indigestion. Mais c'est, ouais, là, c'est un vrai défi.
Donc là, justement, j'imagine que quand vous écrivez une audio-description, vous pensez évidemment quand même au public du film. J'imagine qu'on audio-décrit pas de la même manière un dessin animé, probablement plutôt pour un public jeune. Et,
oui, tout à fait.
Un film,
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va utiliser un registre et un champ lexical qui va correspondre à ce qu'on imagine être l'auditeur moyen. Si je suis sur un film pour enfants, bah, bien sûr, je vais essayer de simplifier mon vocabulaire. Et par là même, en plus de penser au public auquel on s'adresse, il faut aussi utiliser le registre du film. Par exemple, si c'est un film, imaginez les hommes du président ou quelque chose qui va se passer avec des avocats ou des juges, on va essayer d'être un peu plus formel, éviter le langage familier. Alors que si on va faire quelque chose de plus, je sais pas, franchouillard, on va pouvoir un peu plus se lâcher sur l'argot, par exemple.
Pensez au tonton flingueur, quoi.
Bah, exactement. J'ai eu la tête de l'innoventure dans la tête quand j'ai dit ça.
Et du coup, comment est-ce que vous abordez une audiodescription en termes de travail d'auteur ? Donc, si j'ai bien entendu, au début, en fait, vous écoutez la bande-son pour voir ce que vous avez besoin, probablement, ce que vous pouvez en termes de temps et puis ce qui est nécessaire d'ajouter.
Oui, exactement. Alors, la toute première étape, c'est tout simplement, même pas que écouter la bande-son, c'est regarder le film dans une position de pur spectateur voyant. Parce que mon but, c'est de retransmettre l'expérience du spectateur voyant. C'est-à-dire le doute au début, ce personnage qui apparaît, je ne comprends pas trop à quoi, quel est son rôle, à quoi il sert. Toutes ces étapes qu'on a dans un film, ces découvertes, il faut vraiment les retransmettre dans l'audio-description. Donc ça, c'est le plus important. Donc regarder le film une fois en tant que spectateur voyant, c'est la première étape finalement.
Et ceux qui vous jugent, ce sont les personnes aveugles. Quelle est leur place en fait dans ce processus ?
quelle est leur place. Elles ont une place très importante. Oui, c'est très important d'en parler. C'est que chaque film sur lequel je travaille, on va dire la plupart plutôt, je passe après l'écriture dans une phase de relecture avec une personne non-voyante. Ça, c'est la vraie... C'est le moment où j'apprends vraiment mon métier, en fait. C'est-à-dire que je vais me retrouver avec une personne aveugle, je vais lui lire en live mon texte pendant que le film défile, et là, on va s'arrêter dès qu'il y a un souci, dès que quelque chose n'est pas clair, dès que j'en fais trop, ou la personne va me suggérer du vocabulaire pour préciser les descriptions.
Et est-ce que vous travaillez avec des réalisateurs aussi? Est-ce qu'ils valident vos propositions, enfin votre texte?
Alors, je les rencontre rarement, mais une fois le film relu avec la personne, le collaborateur non-voyant, il est très souvent, le texte est très souvent envoyé soit au réalisateur, soit à la boîte de production qui va mettre son tampon ou proposer des corrections.
Et est-ce que parfois vous avez besoin d'aller vers le réalisateur pour cerner des choses, comprendre des choses que vous ne maîtrisez pas?
Bien sûr, en ce moment, je travaille sur un film passionnant. Bon, je suis très fier de travailler dessus. C'est La Panthère des Neiges qui va sortir au mois de décembre.
Sylvain Tesson.
Sylvain Tesson, un film de Vincent Munier, Marie Amiguet. Donc un documentaire qui se passe dans l'Himalaya avec... donc eux, c'est des naturalistes. Donc il y a des animaux endémiques du Tibet. Surtout là-dessus, en fait. Donc j'ai envoyé beaucoup de mails pour poser la question, c'est quoi ce rapace? Est-ce que c'est un gypaète barbu ou un aigle? Est-ce que c'est un chouka ou un crabe avec rouge? Voilà. En général, j'arrive à faire les recherches tout seul, mais alors là, vu que j'ai la chance de connaître le réalisateur, je me permets de lui envoyer des emails.
Mais il doit y avoir aussi une question d'intention de réalisation, c'est-à-dire qu'il y a des films quand même où même si vous ne décrivez pas les mouvements de caméra, je pense que vous devez quand même laisser percevoir dans votre texte peut-être un certain nombre d'intentions en décrivant plutôt ça plutôt qu'autre chose.
Ah bien sûr, ça va plutôt être dans le... En fait, on dit toujours qu'il y a deux phases dans l'audiodescription. D'abord, permettre la compréhension, donc en donnant les informations importantes, et ensuite, ajouter d'autres termes de description du décor qui vont permettre l'immersion. Donc, en donnant les couleurs, en donnant, les modèles des voitures, les vêtements que les gens portent, et bien là, on va aussi imprimer la patte du réalisateur.
Bon, à propos de patte de réalisateur, on va justement écouter un petit extrait de Petit Paysan que vous avez audio-décrit et qui vous a valu le Marius de l'audio-description, qui est un peu l'équivalent d'un César, je crois.
C'est ça.
Donc on écoute un petit extrait de la séquence d'ouverture.
La nuit dans son lit, un homme aux cheveux châtains clairs ébouriffés bascule sur le dos et ouvre les yeux. Il se redresse sur son matelas. Le flanc massif d'un bovin se détache dans l'obscurité. Il se lève. Une vache nerveuse se décale sur son passage. L'homme au visage juvénile, au trait anguleux, traverse nonchalamment son salon où s'amassent des bovins à taches noires et blanches. Il joue des coudes pour se faufiler entre ses bêtes. Trois vaches à la colonne vertébrale saillante se bousculent dans le noir. Dans sa cuisine, l'homme en polo marine boit calmement son café au milieu de ses vaches. Le matin, il ouvre ses yeux en amande, le visage à moitié dans l'oreiller. Sa tête retombe sur le matelas. Il enfile un t-shirt en s'avançant à sa fenêtre. Il regarde ses vaches Primolstein à taches noires et blanches rassemblées dans un pré.
Allez, allez.
Il marche derrière elles sur un chemin. Avec Swan Arlo et Sarah Giraudeau.
Donc c'était donc la séquence d'ouverture de Petit Paysan, audio décrite et lue par... Morgane Renaud, justement à propos de votre voix, en fait, on la reconnaît pas complètement par rapport à la voix que vous avez ce soir.
C'est vrai, la voix est plus posée, plus grave, on est plus dans le bas quand on narre, naturellement. Et là, le film est assez silencieux au début, donc j'avais envie de faire quelque chose d'assez bas, d'assez posé, en fait.
Parce que du coup, est-ce que vous diriez qu'il faut interpréter l'audiodescription ? Est-ce qu'il faut au contraire rester très en retrait ? Qu'est-ce que vous suggérez ?
Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut vraiment suivre l'intention du film. Certains disent qu'il faut rester neutre. Moi, je ne suis pas très d'accord parce qu'en restant neutre, parfois, on devient justement un corps étranger parce qu'on ne suit pas l'émotion du film. Donc moi, j'ai plutôt tendance à me laisser, on va dire, à suggérer l'émotion. Voilà.
Alors, pour revenir justement sur cette séquence qui est intéressante parce que quand on est un spectateur voyant, je pense qu'on se rend compte probablement assez rapidement que ces bovins dans la maison, à l'intérieur même de la maison de l'agriculteur, c'est assez étrange. Et là, finalement, je me demandais comment vous aviez abordé cette séquence en termes d'écriture, justement.
Oui, alors là, il a fallu que je reste très objectif, parce qu'en effet, toute cette séquence d'intro, c'est un rêve. C'est quelqu'un qui se réveille chez lui, il y a des vaches partout, dans le couloir, dans la cuisine. Le fait est qu'il n'y a pas d'effet visuel qui suggère le rêve. Parfois, vous savez, il y a des effets qui vous montrent bien qu'on est dans un rêve. Là, concrètement, on voit juste quelqu'un qui se lève. Quand on voit des vaches dans son couloir, on se dit « Tiens, c'est bizarre. » Donc moi, tout ce que j'ai à faire là, c'est de dire qu'il y a des vaches dans son couloir. Et c'est à nous, à l'auditeur, de se dire « Il y a un problème. » Même s'il ne saisit pas tout de suite, c'est l'accumulation de ces choses incongrues qui va faire qu'on va comprendre que c'est un rêve.
Alors peut-être que le spectateur voyant peut s'en rendre compte un petit peu plus rapidement parce qu'il y a des gros plans qui sont un peu étonnants. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une atmosphère d'étrangeté et là, il va falloir que je m'arrête. Oui. Qui nous donne l'indice quand on est voyant peut-être plus rapidement.
Mais... Oui, ça, c'est possible.
Très bien, très bien. Bon, on avait encore plein de questions à vous poser. Est-ce que j'ai le droit, Margot ? Anne-Li, oui. Merci, Anne-Li. En fait, on voulait aussi vous questionner sur le métier. Comment vous vous êtes formée ?
Ok. Alors, la formation, c'est vrai qu'on me demande souvent comment faire ce métier. Il n'y a pas de diplôme qui permet de faire la description. Il existe maintenant quelques formations privées. Mais comment faire la description ? Il faut être un cinéphile. Moi, j'ai fait des études littéraires. Des études d'anglais. Ensuite, je me suis spécialisé dans l'adaptation du cinéma. Vous savez, tout ce qui est sous-titrage, doublage, traduction des scénarios. Donc en fait, j'ai juste navigué dans cet univers de la post-production, de la littérature et développé ma cinéphilie en parallèle. Et en étant là-dedans, j'ai rencontré une romancière qui s'appelle Hélène Bleskin, qui faisait ce métier. Et à ce moment-là, j'étais stagiaire. Et tout simplement... La directrice de cette entreprise où j'étais stagiaire a entendu parler que je m'intéressais à l'audiodescription au travail de cette Hélène Bleskin et m'a proposé de me former, mais à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on m'a confié des films alors que je ne savais pas faire mon métier. Moi, mon rêve, c'était de travailler sur des films de cinéma. Et là, on m'a tendu un CD directement avec un film. On m'a dit « ça sort dans un mois, c'est pour Gaumont ». J'étais ravi, mais je ne savais pas le faire.
Donc Gaumont, si vous voulez, toutes les audiodescriptions de ces années-là, il y a
exactement.
Encore temps.
Non, parce qu'en fait, j'ai écrit ces audiodescriptions et Hélène, pendant 2 ans, me les a toutes corrigées. Oui. C'est comme ça que j'ai appris, en fait. À l'ancienne, vous savez, comme les ouvriers, en pratiquant.
Ah, ouais. En fait, on jette le bébé à l'eau, puis on s'assure qu'il nage. Quoi.
Exactement.
Et là, je me mets dans la posture d'un spectateur aveugle. Je voudrais voir un film audio décrit. Où est-ce que je les trouve, ces films ?
Alors maintenant, c'est vraiment mais partout. C'est-à-dire que je pense tous les soirs, il doit y en avoir un sur Arte, je pense. Il y en a tous
DVD,
les soirs à la télé.
En VOD, hein.
Ouais. Alors, ils sont sur les DVD. Mm-hmm. Il y en a en salle. Parfois, on ne le sait pas, mais les salles sont équipées. Les salles proposent des films en audio description. Et il y en a sur toutes les plateformes. Les plateformes maintenant de streaming, beaucoup proposent les films en audio description. C'est impossible de les rater maintenant.
D'accord.
D'ailleurs, vous avez tous entendu cette mention. Ce film est disponible en audio description le soir au début des projections.
Et du coup, je conclurai en zoomant sur ce qui se passe à Angers dans les cinémas, parce que vis-à-vis des audiodescriptions. Le Cinéville des Ponts de Cé, en fait, propose les séances en audiodescription. Il vaut mieux quand même vérifier avant de venir que la séance est audio décrite, mais après, il suffit d'aller demander un casque à la billetterie.
Exactement.
Et les personnes aveugles peuvent y accéder. En revanche, au 400 coups, c'est beaucoup plus ponctuel. Là, c'est un choix de séance accompagnée avec des présentations. Et du coup, au 400 coups, la prochaine séance audio décrite, ce sera le film Aline de Valérie et avec Valérie Lemercier. Et c'est le vendredi 19 novembre à 15h45 et 20h15 au 400 coups. On aurait encore plein de questions à vous poser. C'est un métier passionnant à découvrir. Rendez-vous dans d'autres horizons. Merci beaucoup, Morgane Renaud, de vous être pliée à toutes nos questions et d'avoir répondu à notre curiosité.
Merci pour l'invitation. Sans transition,
nous allons passer à une pastille musicale.
Écoutez Radio G, Caméra Subjective, le magazine consacré au cinéma. Et maintenant, nous allons vous proposer un agenda, une sélection. C'est bien ça, Margot ?
Mais oui, mais t'as même pas dit le titre qu'on a écouté.
Oui, c'est vrai.
Ça va pas.
C'est issu de la bande originale de Little Miss Sunshine, un film sorti en 2006. Et ce titre, c'est The Winner Is.
Alors, The Winner Is, cette semaine dans l'agenda cinéma, pour commencer... Pour tous les Angevins, je vous annonce la semaine du cinéma en langue espagnole qui se tiendra du 17 au 23 novembre au 400 coups avec plein de films à voir ou à revoir. Alors à voir, à découvrir, en tout cas en avant-première, le nouveau film de Pedro Almodovar, Madres Parejas, qui vous est proposé le 17 novembre, c'est-à-dire je dirais dans une semaine, mercredi prochain. Ensuite, pour ceux qui sont un petit peu aventuriers et qui veulent aller jusqu'à Nantes, il y a du 19 au 28 novembre le Festival des Trois Continents. Donc les trois continents en question, ce sont l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie. Et cette année, c'est la 43e édition du festival, qui est donc un rendez-vous assez incontournable pour les Nantais. Alors c'est un festival qui propose à la fois des films en compétition et plusieurs rétrospectives qui sont franchement chouettes et particulièrement alléchantes, dont une que je vous recommande en particulier, qui sera consacrée à la Shochiku, qui est l'un des trois grands studios historiques de production japonaise, et donc qui vient de fêter 100 ans de production cinématographique. Donc la Shochiku, en fait, c'est le studio qui a produit les films de Kenzo Mizoguchi, de Naruse, un petit peu de Akira Kurosawa, mais surtout, on connaît la Shochiku parce que c'était le producteur de Yasujirō, alors j'ai pas de diplôme en japonais, mais de Ozu, en fait, c'est plus simple de dire ça, qui est donc un cinéaste emblématique de ce studio pour lequel il réalisa, en 35 ans de carrière, pas moins de 52 longs-métrages. Là, il n'y a pas 52 longs-métrages proposés dans cette rétrospective, mais il y en a une bonne vingtaine qui ont l'air magnifiques et fabuleux, et voilà, courez-y. Sinon, le festival propose évidemment des sélections pour le jeune public, et une dernière qui s'appelle « Une place sur Terre ». Et rien que pour ce titre, j'avais envie de vous en parler, parce que leur idée, c'est de faire dialoguer autour de certaines thématiques des cinéastes qui sont des grands maîtres, comme Kiarostami, Noribilgué Ceylan, Satyajit Ray ou Abderrahmane Sissako. Donc, pour tous les explorateurs, pour tous ceux pour qui le cinéma, c'est de l'évasion, courez à Nantes. Je crois que Véronique, tu as un petit concours à nous, dont nous parler pour premier plan.
Et d'ailleurs, je retiens le dernier mot que tu as prononcé, c'est évasion. Parce que ce petit concours, il s'adresse à tous les habitants d'Angers-Loire Métropole. Et ils sont invités à réaliser un film de 3 minutes sur le thème de l'évasion, qui sera le thème du festival Premier Plan en janvier 2022. Si vous avez envie de gagner un an de cinéma, la projection de votre film au festival ou des places pour le festival Premier Plan, vous pouvez envoyer votre film jusqu'au 14 décembre au festival Premier Plan.
Et enfin, je crois qu'on écoute un petit extrait sonore. Annie, elle me dit non, mais moi je crois que si.
Have you seen Jane or talked to her? We thought you were dead, boy.
How long have I been gone, do you know?
4 years.
Is 4 years a long time?
It is for a little boy.
There will be no safety zone. I can guarantee you the safety zone will be eliminated.
What's out there?
I gotta go away now.
Why?
Because I'm gonna find her.
How's it going?
Vous aurez peut-être reconnu quelques notes de la bande originale de Paris, Texas, le grand film de Wim Wenders qui a reçu la Palme d'Or en 1984. Et pour les cinéphiles ou ceux qui l'ont vu, c'est un grand moment de frisson. Alors voilà, on vous le passe parce que ce n'est pas le personnage principal, mais c'est un personnage très important qui était interprété par Dean Stockwell, dont on vient juste d'apprendre le décès. Donc voilà, c'était une façon de saluer cet immense comédien dans ce film où il est le frère d'un revenant qui refait surface dans le désert après une disparition de 4 ans. On aimerait bien que Dean Stockwell revienne lui aussi.
Eh bien, je prends le relais parce que Anneli va enfin nous révéler quel était le film dont nous avons entendu les extraits au début de l'émission.
Et oui, ce film avec ces chiens qui parlent. Alors ce soir, moi j'ai choisi un de mes films coup de cœur, celui pour se mettre du baume au cœur. Vous pouvez le regarder dès que vous avez un coup de mou. C'est un film d'animation de Pixar, Disney, sorti en 2009, réalisé et scénarisé par Pete Docter et Bob Patterson. C'est là-haut. Vous voyez l'affiche, cette affiche avec cette maison sur... Plein de ballons multicolores. Alors là-haut, c'est l'histoire d'un vieux monsieur ronchon, Carl Fredriksen. À 78 ans, le voilà veuf de son amour de toujours, sa femme Ellie. Lui et son aigreur vivent au milieu des gratte-ciels et pour rien au monde, il ne vendra sa maison, qui est tout ce qui lui reste. Jusqu'au jour où il lâche tout et prend littéralement son envol. On le voit partir avec sa maison, accroché à ses milliers de ballons remplis à l'hélium. Cette fois, c'est décidé. Il va réaliser son rêve de toujours, partagé avec Ellie. Partir vivre aux chutes du paradis, là où le temps s'est arrêté. Pas de bol, bien sûr, il y a un couac. Russell, le gentil scout qui veut absolument rendre service, était sur le palier au moment de l'envol et se retrouve embarqué dans ce voyage aérien vers l'Amérique du Sud. Dans là-haut, on rit beaucoup et il y a beaucoup d'aventures et d'inattendus. il y a aussi énormément de tendresse. Alors, il faut que je vous prévienne, si vous vous jetez sur ce film, la scène d'ouverture, sans parole, il y a uniquement la musique qui accompagne les images, elle est remplie d'émotions, cette scène. C'est un retour sur la vie de Carl et Ellie, qui ont tout vécu ensemble, toujours complices. Une vie remplie de projets, parfois contrariés par des douleurs, des deuils, des imprévus. Mais aussi une vie toujours remplie d'amour. Le genre de vécu que seuls nos grands-parents et quelques exceptions connaîtront encore. Alors attention, quand je vous dis que c'est un début avec de l'émotion, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et c'est-à-dire qu'on pleure, même on chiale, c'est impossible de faire autrement. Mais c'est aussi pour ça que ce film est formidable. 5 minutes, vous vous videz. Vous n'avez plus de larmes. Ensuite, rassurez-vous, on suit les aventures de nos deux anti-héros. Le vieux monsieur grincheux qui se méfie de tout, les yeux rivés sur son rêve. Et l'enfant Scout qui est délaissé par ses parents, mais qui s'émerveille de tout. Il y aura aussi un oiseau géant et légendaire, une meute de chiens connectés et des chiens qui parlent, et un aventurier reclus dans les montagnes. Les méchants sont inquiétants, les autres sont tous plus attachants les uns que les autres. Charles Aznavour double formidablement Carl. La bande originale composée par Michael Giacchino a été oscarisée. On rit beaucoup, on s'ennuie pas, on pleure, vous l'avez compris. Là-haut est un film touchant qui nous parle des regrets, de vieillesse, des liens, d'apprendre à laisser filer les choses. La vie, quoi. Bon, c'est à regarder à tout âge et régulièrement dès que vous avez un petit coup de mou.
Encore un film d'évasion, donc.
Ouais. Merci beaucoup, Annelie. Eh bien, là-haut, il y a un film au mois de juillet qui, au Festival de Cannes, s'est retrouvé très très haut.
Absolument. Le film dont je vais vous parler à présent est lui aussi disponible en audiodescription. Et quand on le regarde en tant que spectateur voyant, on se dit que le travail de l'audiodescripteur n'a pas dû être de tout repos. Le mien non plus, à vrai dire, tant chroniquer un tel film en 6 minutes seulement relève de la gageure, compte tenu de la richesse, de l'ambition et de la flamboyance cinématographique de cette œuvre passionnante. Ce soir donc, j'ai choisi de revenir sur Titane, le second long-métrage de la réalisatrice Julia Ducournau, Palme d'Or au dernier Festival de Cannes. Si vous l'avez manqué en salle, pas de panique, il sera disponible dès la semaine prochaine, en VOD, ainsi qu'en DVD et Blu-ray édité par Diafana. Alors, comment parler de ce film ? Commençons par le synopsis. Ce sera rapide car il tient en une ligne.
Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans.
Alors, si vous aviez cette phrase sous les yeux, vous pourriez constater qu'elle est coupée en deux par une virgule. Et ce signe de ponctuation a son importance. Il sépare les deux parties de la phrase, un parcours criminel d'un côté, des retrouvailles inespérées de l'autre, tout en les liant. Et cette fluidité, qui permet de passer d'une histoire à une autre a priori sans rapport, c'est précisément le trajet du film de Julia Ducournau et l'essence même de sa beauté hybride. Titane commence comme un film noir matiné de gore, côté interdit aux moins de 16 ans, avec un serial killer plutôt étonnant voire dérangeant. Puis le film va entamer une mue perpétuelle pour aller titiller d'autres genres et thématiques cinématographiques. Le film policier, le récit initiatique, la quête de soi et même le film d'amour. Et cette plasticité du récit renvoie à celle du corps de l'héroïne, Alexia, une jeune femme blonde au tempérament d'acier, auquel peut renvoyer la prothèse en titane qu'elle porte au niveau de l'oreille. Interprétée par une comédienne formidable, Agathe Roussel, Alexia nous est présentée dans un plan séquence d'ouverture survolté qui se déroule au sein d'un salon automobile. Et là, j'ai failli dire un saloon, car l'ambiance électrique de mâles chauffés à blanc laisse présager de futures bagarres. Des jeunes femmes en tenue brillante très très légère s'adonnent à des danses sexy sur des carrosseries de voitures flambant neuves. Non, ce n'est pas Crash, le film de David Cronenberg, même si l'univers hyper érotisé des voitures peut y faire penser. Mais dès ses premières images, la réalisatrice interroge l'idée de genre, masculin-féminin, à travers la mise en scène des corps, comme elle s'en explique.
Pour moi, l'idée c'était de montrer que les contours de la féminité sont beaucoup plus flous que ce qu'on voit dans le premier plan séquence. Je voulais faire sentir que la féminité était elle-même une forme d'hybridité, qu'on pouvait finalement se créer soi-même, comme on le souhaite.
Et il y a une vraie gourmandise pour le spectateur à assister à ces métamorphoses du personnage d'Alexia, même les plus monstrueuses. Cette jouissance du regard doit tout au parti pris de la mise en scène de Julia Ducournau, qui cherchait à faire de Titane une œuvre organique sublime, qui impliquerait non seulement l'esprit, mais aussi le corps des spectateurs.
J'ai vraiment essayé de faire un film qui décoche une flèche, qui soit avant tout une expérience, dont on sorte comme d'une épreuve physique.
Et toute l'esthétique du film participe de cette ambition sensorielle. Le contraste des couleurs, les gros plans sur le moteur d'une voiture lancée à pleine vitesse, le rythme des plans et surtout le travail sur la bande sonore, particulièrement remarquable. Au cœur de ces métamorphoses des corps et des genres, il y a donc une rencontre décisive que je vous propose d'écouter avec cet extrait audio-décrit de Titane.
Un homme d'une cinquantaine d'années, mal rasé, avance tête basse dans un couloir. Il a les yeux cernés, les traits tendus. Il est immobile face à un bureau vitré au store fermé. Un policier en uniforme passe dans le couloir. Un inspecteur rejoint le quinquagénaire.
On a essayé de joindre la mère.
Il n'y a pas de mère. Je peux voler.
On la recherche. Ça va ? Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Faites oui ou non de la tête, si vous voulez.
Il reste impassible, tête basse.
En tous les cas, on fera un test ADN.
Pourquoi je ferai un test ADN ? Vous croyez que je suis pas capable de reconnaître mon fils ?
Alors cet homme dans le commissariat, c'est Vincent Legrand, capitaine de pompiers au corps bodybuildé, entretenu par l'injonction quotidienne de stéroïdes. Vincent Lindon interprète avec force ce personnage trouble de père un peu ravagé, à des années-lumière du cinéma social et des personnages très réalistes dans lesquels le comédien excelle habituellement. Métamorphose encore. On l'a entendu. La rencontre entre Vincent et Alexia démarre comme un malentendu ou une mystification. Celle de Alexia qui se fait passer pour Adrien, le fils disparu de Vincent. Alors comment un père peut-il se laisser abuser ? Souvenez-vous, vous croyez que je suis pas capable de reconnaître mon fils ? Cette réplique magnifique qui clôturait l'extrait que nous avons écouté résume l'un des enjeux les plus forts de Titane. La reconnaissance mutuelle par deux êtres de leur humanité singulière. Alexia est Adrien parce que Vincent la considère ainsi, comme son fils. Alexia est Adrien parce qu'elle finit par aimer Vincent comme son père, en dépit d'un corps qui se refuse de plus en plus au travestissement. Et le spectateur de se demander combien de temps ces deux personnages pourront encore y croire.
J'avais l'idée de faire un film sur l'amour. Je voulais placer cette thématique au centre. Jusqu'où aller dans l'acceptation inconditionnelle et totale de quelqu'un ?
Et en s'intéressant à l'identité profonde de chacun par-delà les apparences physiques, le film de Julia Ducournau résonne de façon très contemporaine. Alors j'aimerais terminer cette chronique avec les mots de la réalisatrice quand elle a reçu sa palme d'or des mains de Spike Lee.
Je voulais remercier le jury de reconnaître avec ce prix le besoin avide et viscéral qu'on a d'un monde plus inclusif et plus fluide. Merci au jury d'appeler à plus de diversité dans nos expériences au cinéma et dans nos vies. Et merci au jury de laisser rentrer les monstres.
Titane, de Julia Ducournau, en DVD, Blu-ray et VOD, dès le 16 novembre.
Alors l'édition vidéo du film propose un passionnant entretien entre Julia Ducournau et Olivier Père, le directeur d'Arte France Cinéma, qui a coproduit le film.
Je me demandais, Margot, avant qu'on se laisse, comme on est de toute façon un peu en retard, est-ce que c'est un film qui fait peur ? Parce que moi, j'ai eu un peu peur d'aller le voir et j'avais peur de ressortir un peu chamboulée.
Je ne suis pas sûre que c'est un film qui fasse peur, c'est un film qui fait frissonner, qui donne énormément d'émotions, mais moi qui ne suis pas forcément amatrice de films gore, là je trouve qu'il y a une vraie jouissance et un certain humour en fait dans ces séquences. Donc c'est vraiment un film que je recommande, si possible, sur l'écran le plus large possible, on va dire.
D'accord, faire cette expérience du grand écran. D'autres choses à se dire ? Non ?
Bah, puisqu'on est vraiment très en retard, moi j'ai un dernier coup de cœur à proposer,
ah, oui,
c'est
oui.
Julie en 12 chapitres, qui passe toujours aux 400 coups, le film de Joachim Trier, et que vraiment je pense qu'on est trois à vous recommander.
Ah oui, ça, complètement.
Oui, moi je l'ai vu hier et ça m'a beaucoup plu. La bande originale est chouette, la mise en scène est super, le découpage aussi. Il y a juste un des personnages qui m'a un peu énervée, mais je crois que c'est son personnage qui est comme ça, donc c'était normal. Et j'étais contente de le voir au cinéma. Voilà, pour la critique. Bon, c'est l'heure de se laisser quand même, on va pas tenir le micro éternellement. Merci à vous d'avoir écouté Caméra Subjective qui a pris ses aises aujourd'hui. Nous avons volé 5 minutes de temps à notre timing habituel, qui nous en tiendra rigueur. Je sais qu'il nous en tiendra rigueur et je vous présente nos excuses. Vous pouvez réécouter le podcast en ligne sur le site de Radio G à la page de Caméra Subjective. Si vous nous écrivez, on sera ravis d'avoir votre retour, quel qu'il soit. Et si vous le souhaitez, on pourra vous envoyer notre newsletter qui vous permet de retrouver toutes les infos, toutes les choses dont on a parlé. Il y aura même bientôt la playlist de notre sélection musicale disponible. Voilà.
Merci Anne-Lie, bonne soirée à tous.
Au revoir.
À dans 2 semaines, bon film.